Alors, comme vous le savez peut-être, à la maison, une manière de distinguer l'intelligence de l'être humain de celle des autres espèces animales, et ça, on en a beaucoup d'exemples, c'est la fabrication d'outils. Et là, on vient de découvrir au Brésil que des singes façonnent des éclats de pierre coupantes similaires à celles utilisées par nos ancêtres. Là, l'impression que ça peut donner, Britt, c'est qu'on est en train de se faire dépasser par la bande, là.
Ben en fait, pas vraiment. Donc, je veux juste signaler, c'est un article qui est paru dans la revue Nature, qui est quand même une revue assez importante en science. C'est vraiment la revue, une des revues de référence. Donc, faut prendre ça avec l'information qui est là-dedans est très intéressante, même si on dirait que c'est un petit peu anecdotique. Donc, il s'agit d'un groupe particulier de capucins. Donc, ce sont des singes qui vivent au Brésil. Ici, c'est un groupe qui vit dans le parc national Serra des Capivaras. Et ils sont suivis depuis de nombreuses années par les chercheurs, parce qu'en fait, ils ont un comportement particulier. Ce sont des singes qui vont de temps en temps sur une falaise et ils prennent une roche dans leurs mains et frappent le sol. Donc, comme on est sur une falaise, c'est aussi un sol de pierre. Et ensuite, ils lèchent le sol. On ne sait pas encore exactement pourquoi est-ce qu'ils font ça. C'est peut-être pour compléter leur alimentation avec des minéraux ou pour décoller le lichen et s'en nourrir.
Est-ce qu'on connaît le lien avec les outils ici?
Ben, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'en faisant ça, frapper une pierre, donc contre une falaise qui est en pierre, on crée des éclats qui vont virevolter partout. Et ce sont ces éclats-là qui ressemblent à s'y méprendre aux outils dont se servaient nos ancêtres pour couper la viande et racler les peaux. Et puis c'est ça, en fait, la nouveauté.
Ben, effectivement, on commence à voir le lien qui se construit. Est-ce que c'est possible pour les archéologues de confondre de la pierre taillée volontairement ou non, finalement? Parce qu'on connaît pas trop la volonté de l'animal derrière ça.
Ils vont jamais la confondre, en fait, parce que les sites archéologiques sont beaucoup plus complexes, en fait, que juste des éclats de pierre. On peut y trouver des outils de différentes sortes, des traces de feu, des os, etc. Puis d'ailleurs, en fait, les capucins ne sont pas les seuls à créer des outils sans le savoir. Il y a quelques années, il y a un archéologue qui avait trouvé toute une série de pierres taillées qui ressemblaient à de vieux outils, mais après enquête, il a conclu que c'était juste une piste de lama et que c'est leur passage répété qui avait façonné l'obsidienne, qui est quand même une pierre très dure, en pseudo-outil. Par contre, cette étude, elle suggère plusieurs questions très intéressantes. Donc, quand, comment, pourquoi nos ancêtres ont commencé à travailler, à façonner des outils? Est-ce que c'était par hasard? Hey, tiens, ce truc-là, ça coupe, si je m'en servais. Et puis aussi, quel type d'intelligence, donc quel niveau d'intelligence et quelle morphologie de la main, parce qu'elle aussi, elle a évolué du passage du singe vers l'homme, sont nécessaires pour fabriquer les outils. Et bon, bien entendu, on s'entend qu'il va y avoir d'autres choses à dire là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces capucins-là, ils utilisent quand même les outils, donc enfin un outil qu'on appelle, ils cassent leur noix avec une pierre, donc en cassant, en tapant la noix avec une pierre dans leur main. Donc ça rentre aussi dans la définition d'outil. Mais ils ne créent ni ne modifient un nouvel instrument, donc l'éclat obtient sa coupe et je vais l'utiliser autrement pour le rendre la vie plus facile. Ça, c'est un signe d'intelligence qui est plus élaboré.
Ah oui, bien c'est intéressant de voir la compréhension derrière ça. C'est qu'on n'a pas besoin d'être intelligent pour casser correctement une pierre. Après, il faut l'être un peu plus pour l'utiliser.
C'est exactement
grosso
ça.
Grosso modo, c'est ce qu'on peut tirer comme conclusion de cette étude-là qui est apparue dans le prestigieux magazine Nature. Donc, Britt Pochet, on te retrouve un petit peu plus tard avec d'autres nouveautés scientifiques. Il semblerait qu'on ne soit pas tous égaux devant les infections bactériennes. C'est en tout cas Britt Pochet ce que soutient une étude de l'Université de Montréal qui a paru dans la prestigieuse revue Cell.
Oui. En fait, le système immunitaire des personnes d'origine africaine ou européenne ne réagirait pas de la même manière aux infections. Donc ici, je vais juste simplifier un petit peu parce que les chercheurs, ils ont travaillé aux États-Unis avec des personnes des États-Unis. Donc, en fait, ce sont des personnes d'origine afro-américaine ou euro-américaine. Mais pour simplifier le propos, je vais juste dire africaine et européenne parce que ça marche aussi. Donc, les chercheurs ont isolé les macrophages du sang de 175 personnes, donc 80 d'origine africaine et 95 d'origine américaine.
Les macrophages, pour qu'on se comprenne bien ici?
Alors, les macrophages, en fait, ce sont des cellules et ce sont les soldats de première ligne de notre corps. Donc, leur rôle, c'est vraiment de repérer l'intrus, donc bactéries, virus, les attraper et de les tuer. Donc, ensuite, ils vont manger leur proie parce qu'ils sont propres, donc ils débarrassent le sang et le corps de ce qu'ils ont trouvé. Et ça, c'est le fait de manger sa proie, ça s'appelle la phagocytose. Et les chercheurs ont regardé, en fait, à quelle vitesse les macrophages tuaient et phagocytaient deux bactéries. Donc, ils ont fait ça dans des boîtes de pétri, si vous voulez, en culture, donc pas chez les gens directement. Et ces deux bactéries, c'est Salmonella et Listeria. Ils ont remarqué, en fait, que les macrophages des personnes d'origine africaine travaillaient deux fois plus vite que ceux d'origine européenne.
Là, on a tendance à se dire plus c'est vite, mieux c'est, mais est-ce que c'est vraiment un avantage?
Oui et non, en fait, parce que il faut le système immunitaire, faut vraiment voir ça comme quelque chose de très touché. Donc, il balance toujours entre, on va dire, entre deux extrêmes. S'il est endormi, il va laisser entrer les pathogènes comme les bactéries, puis on va être malade, on va mourir. Puis, s'il est trop allumé, ben, il va commencer à attaquer tout ce qui bouge, y compris nous-mêmes. Donc, nos cellules, donc ça, c'est pas bon non plus pour nous parce que c'est la cause, en fait, des maladies auto-immunes. Et comme maladie auto-immune, ben, on connaît le diabète de type 1. Donc, là, le système immunitaire va tuer les cellules de pancréas qui produisent l'insuline ou la sclérose en plaques. Donc là, le système immunitaire va détruire la myéline qui entoure et protège nos neurones. Et donc, ça cause des maladies qui peuvent être assez graves.
C'est comme si on devenait, ces cellules-là devenaient surprotectrices, donc, puis devenaient
Elles cherchent à faire leur travail. Puis si elles n'ont pas de bactéries ou si elles sont hyper efficaces contre les bactéries, ben après c'est comme ok, bon je m'ennuie, qu'est-ce que je fais, go, ah tiens il y a quelque chose que je trouve bizarre.
Ah oui, c'est là que ça peut devenir risqué, donc faut pas
oui,
que ce soit.
Oui, c'est ça, parce que ça, je veux dire, ces cellules-là qui vont attaquer les cellules cancéreuses, puis la différence entre une cellule cancéreuse et une cellule normale, on s'entend-tu qu'une cellule cancéreuse ça reste une cellule de notre corps, donc il y a des choses qui indiquent qu'elle est différente des autres, mais c'est ça, c'est
parfois
assez...
Faut que notre système soit capable de faire le tri, là.
Tout à fait.
Grosso modo.
Et c'est vraiment le rôle du système immunitaire, ça, de faire le tri.
Est-ce qu'on sait pourquoi le système immunitaire des Afro-Américains, des Euro-Américains utiliserait une stratégie d'attaque différente? Parce que c'est ça qui est curieux, là.
Tout à fait. En fait, le chercheur, donc c'est Luis Barreiro, qui est en génétique. Et ce qu'il a fait à partir des macrophages, il a aussi été regarder qu'est-ce qui était allumé comme gène. Donc, c'est quoi que le macrophage utilisait à ce moment-là pour travailler. Et ici, je vais reparler d'un côté évolutif et sélection naturelle. Donc, quand on parle évolution, sélection naturelle et adaptation, il faut voir donc ça. Donc, moi, je vais avoir un avantage ici dans mon environnement actuel. Donc, par exemple, si j'ai une grosse veste pour l'hiver, ben, je peux être au chaud. Mais par contre, dès que la température va être plus chaude, ben, là, l'avantage disparaît, puis ça peut même être encombrant. Donc, une des hypothèses des chercheurs, c'est que, l'environnement dans lequel sont nés les premiers hommes, donc, qui est l'Afrique, il y fait chaud. Et qui dit chaleur dit multiplication des microbes. Donc, ils soupçonnent que les Africains, donc, étaient ou sont encore très exposés à des tas de pathogènes. Donc, dans ce cas-là, un système immunitaire qui est réactif est avantageux. Par contre, quand l'homme moderne, donc il y a 60 000 ans de ça, a émigré vers le nord, donc il a possiblement rencontré soit moins de pathogènes, soit des pathogènes qui étaient différents. Et là, le système immunitaire n'avait plus besoin d'être aussi actif, ou en tout cas, quand il était actif, ben il allait plus du côté des maladies auto-immunes, qui sont pas bonnes. Puis d'ailleurs, en fait, ils ont réussi à dater la séparation entre l'expression des gènes du système immunitaire à cette période-là.
Et là, il y avait une autre hypothèse aussi qui était soulevée?
Oui, il y a deux hypothèses. Donc, il y a celle-là au niveau des maladies auto-immunes, puis il y a aussi l'homme de Néandertal. Donc, l'homme de Néandertal, pardon, c'est un hominidé qui existait déjà en Europe à l'époque et avec lequel l'homme moderne s'est croisé. Et 3% des gènes impliqués dans la réponse immunitaire qui a été mesurée ici dans l'étude, donc, proviennent aussi de Néandertal.
Ah oui, donc c'est assez intéressant de voir les différentes hypothèses qui sont soulevées, mais de voir qu'on voit encore les impacts de ça aujourd'hui, qu'on voit encore les différences. On est des êtres vivants comme les autres. Notre corps continue à s'adapter sous la pression de l'évolution et on en a un exemple très, très concret ici, Brit Pochet. Merci beaucoup pour l'éclairage. Nos cellulaires et autres articles électroniques pourraient faire une nouvelle victime. Brit Pochet, en chronique scientifique, il y a un lien à faire entre nos nouvelles technologies et le plancher océanique.
Et oui, parce que le plancher océanique, en fait, renferme des métaux. Et on en consomme énormément dans les appareils électroniques. Comme les mines sur Terre commencent à être à sec, ben, on se tourne vers une source moins conventionnelle, les fonds marins. Et c'est la biologiste québécoise José Sarrazin qui a lancé le cri d'alarme la semaine dernière au cœur des sciences. Elle est spécialiste des fonds marins pour l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer en France et elle était en visite donc la semaine dernière ici. En fait, jusqu'à peu, ces fonds marins, donc ce qu'on appelle les plaines abyssales, on pensait qu'elles étaient stériles ou presque, parce qu'on est à 4000, 6000 mètres de profondeur, il fait 0 degré, il n'y a aucune lumière qui passe là-bas, donc pas de photosynthèse, pas de plantes, rien du tout, enfin algues. Et puis aussi, la pression est énorme, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on est à 500 fois la pression atmosphérique. Donc, en gros, si vous pesez 60 kilos, ben là-bas, vous pesez 60 tonnes. Et quand on voit les images aussi, ça ressemble vraiment à un désert de pierres. Mais chacune de ces pierres, c'est une pierre particulière. C'est ce qu'on appelle un nodule polymétallique. Et ils sont extrêmement riches en métaux.
Et là, extrêmement riches en métaux, certes, mais est-ce qu'il y en a assez pour permettre une exploitation qui est vraiment rentable dans ces conditions-là?
Oui, surtout quand le prix des métaux est élevé, parce qu'il y a beaucoup de ces grosses roches, donc à certains endroits de la Terre, donc comme par exemple une zone qui est actuellement exploitée entre Hawaï et la côte ouest du Mexique, et sur ces 9 millions de kilomètres carrés, elle renfermerait 34 milliards de tonnes, dont environ 340 tonnes de nickel, milliards de tonnes, pardon, de non, 340 tonnes, pardon, de nickel et 275 tonnes de cuivre. Et en plus, pardon, du nickel et du cuivre, on parle de cobalt, manganèse, zinc, cadmium, or, argent, terres rares. Donc le fond des mers regorge de métaux qui sont stratégiques. Et comme je disais, donc il y a plusieurs permis d'exploitation qui ont été attribués par l'Autorité internationale des fonds marins qui administre les eaux internationales pour l'ONU.
Et là, vu comme ça pour les minières, ça a l'air d'être toute une, pas faire de mauvais jeu de mots, mais toute une mine d'or quand même, toute une panacée. Oui. Est-ce qu'il y a des risques pour l'environnement, ça dit?
Oui, bien sûr, donc parce que ces milieux sont très fragiles et puis surtout ces milieux sont méconnus, donc. Et d'ailleurs, cet été, il y a une étude qui a montré qu'au lieu d'être des déserts, ils foisonnent de vie. Et pire, la biodiversité est plus riche là où il y a une plus grande concentration de blocs de métal, donc là où c'est plus intéressant de les exploiter.
On s'imagine bien que les minières ont un œil là-dessus. Est-ce que des mesures qui ont été prises pour protéger ces environnements-là?
Oui, José Sarrazin a beaucoup d'espoir car l'industrie travaille en partenariat avec les chercheurs. Ils essayent de mettre en place des façons de faire pour préserver les environnements, par exemple en établissant des réserves. Par contre, il faut bien entendu être très prudent parce que le ramassage et concrétion, en plus de détruire la vie qui est dessus, met les sédiments en suspension. Puis en se déposant plus loin, ces sédiments vont étouffer la vie. Donc c'est un peu comme si on avait 50 cm de neige qui nous tombait d'un coup et qu'on était incapable de s'en débarrasser. Bref, c'est sans compter le bruit, le relargage des résidus miniers, etc., puis les autres choses habituelles.
Et avec tout ce qu'on consomme comme produit électronique, on peut certainement parler d'une nouvelle menace de temps qui pèse sur l'environnement. Au moins, il y a l'industrie qui veut mettre en place de bonnes pratiques, des mesures qui sont mises en place. Donc, on garde ça à l'œil. Brit Pochet, un plaisir de t'accueillir au micro.
Merci.
À très bientôt.